Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, ce soir, c'est avec le réalisateur Clément Schneider.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te dire.
Romain de Bête de Lièvre.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
L'image est située à la fois dans le temps et hors de lui. Un homme, un moine, repose dans le soleil, allongé sur la branche d'un olivier, et on entend des cigales. C'est un corps qui s'inscrit dans un paysage visuel et sonore. Puis viennent d'autres corps et viennent les armes. Nous sommes en 1792 et la Révolution a ordonné la réquisition des biens du clergé par l'armée. Un monastère juché sur des collines devient une caserne et le moine devient un soldat. Votre film, Clément Schneider, donne à voir les échos d'une insurrection historique dans une région reculée et son effet profond sur les corps et les esprits. Il interpelle aussi un aujourd'hui à la manière d'un écho que l'on perçoit comme un cri poussé depuis le passé. Bonsoir Clément Schneider.
Bonsoir.
Votre film s'appelle Un violent désir de bonheur et il sort en salle aujourd'hui. Merci d'être là.
Merci à vous pour l'invitation.
Maintenant, qu'allez-vous faire? Tout détruire? Tout brûler? Nous faire sortir d'ici un par un et nous trancher la tête à tous? Et quand il n'y aura plus de toutes parts que cendres et ossements, où irez-vous? Avez-vous songé une seule fois à ce que vous ferez de vos jours, de ces lieux, de votre révolte? Chantez! Priez tant que vous le pouvez, l'écho de nos prières ne s'éteindra pas. Brûlez tout et profitez bien de la chaleur du feu car elle ne durera pas. Et quand il ne restera rien que le vent soufflant sur les décombres, saurez-vous vous laisser porter et gonfler vos âmes des seuls biens dont nous fûmes vraiment riches? Le temps et le silence. Puisse le monde neuf advenir tel que vous l'avez rêvé et puisse, livré à la brûlure des ans, votre révolution ne pas se faner.
Clément Schneider, on entend un premier extrait de votre film « Un violent désir de bonheur ». On entend ici, c'est un moine qui s'appelle Gabriel et qui voit arriver l'armée révolutionnaire qui est là pour réquisitionner le monastère. Ça se passe en 1792. Pourquoi cette date? Comment elle est apparue?
Elle est apparue quand on a commencé avec les scénaristes à réfléchir autour de ce film sur la Révolution, dont on a entamé l'écriture en 2013, à un moment où la question de, mais qui est toujours brûlante par ailleurs, de la laïcité l'était encore peut-être plus. Et on se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moments que c'est ce 1905 un peu fétichisé qu'on pourrait aller investiguer pour s'emparer de cette question-là, du rapport entre le politique et le religieux. Et est arrivée, en fait, la première loi de séparation de l'Église et de l'État, qui avait eu lieu pendant la Révolution. Et donc, on a décidé de prendre ce moment, qui est un moment qui précède juste l'établissement de la République aussi, qui précède la Terreur. Donc on est encore dans... En tout cas, dans l'imaginaire collectif autour de la Révolution, on est encore, dans l'exaltation et la fête révolutionnaire avant de basculer dans, dans les excès un peu plus sanguinaires et dévastateurs de la terreur qui vient ensuite. Donc on avait choisi cette date pour cette raison-là, et parce que c'était plausible aussi, tout bêtement, que du coup le monastère dans lequel on avait décidé d'établir notre récit soit réquisitionné de cette manière-là par des troupes. Voilà, ça nous semblait être le bon moment de la Révolution aussi, tout simplement parce que du coup c'est pas une date très très symbolique. Il n'y a pas d'attente forte autour de 1792 en particulier. Et on aimait bien cette idée de déconstruire petit bout par petit bout les attendus autour de la Révolution.
Il y avait l'idée aussi de faire un film sur la Révolution.
Il y avait l'idée de faire un film sur la Révolution pour une raison très simple, c'est que on avait cette envie de, à la fois de traiter cette question de la séparation de l'Église et de l'État, en même temps de traiter de ce que c'est l'engagement de quelqu'un par rapport à la sensation que le monde est en train de changer autour de lui. Et du coup, la question de sa pose pour chez un personnage plutôt jeune, de savoir comment il se positionne et quel choix il va faire. Et assez naturellement, la Révolution est venue. Alors, peut-être parce que je suis assez sensible à la littérature du 18e, que c'est une pensée qui a été assez déterminante pour moi. Mais aussi parce que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de film sur la Révolution. Alors, il se trouve que on est dans une année où il y en a deux qui sortent de fait tout sur coup presque, en plus de la pièce de Pommerat, mais ça doit dire en fait quelque chose probablement du besoin qu'on a de se réemparer de ces moments qui nous constituent, qui nous déterminent, qui forment comme ça cette espèce d'édifice symbolique très fort, notre roman national avec beaucoup de guillemets autour. Et en fait, il y avait quelque chose de tellement arrogant à dire on va faire un film sur la Révolution en sachant qu'on aurait des moyens probablement très réduits, très limités. Moi, j'aimais bien cette idée-là de prendre ça comme un défi et de se dire qu'on allait y arriver parce qu'on allait trouver un récit qui n'avait pas encore été fait, qu'on allait inventer une forme qui nous permettrait de parler de notre révolution et d'une autre révolution. D'où ensuite les choix liés à la périphérie, au fait de se concentrer sur un personnage, etc. etc.
Si c'est un film sur la Révolution, c'est en tout cas un film, je disais en introduction, sur les échos de la Révolution. Ouais. Avec le choix donc d'un monastère reculé et de montrer aussi plus l'impact que peut avoir le vent de la Révolution qui vient de Paris sur une région reculée. C'était ça aussi qui était au cœur du projet?
Complètement, complètement. En fait, à un moment, avec la scénariste, on a découvert un lieu qui finalement est assez peu filmé dans le film, qu'on voit très peu, et qui est un monastère réellement isolé comme ça dans l'arrière-pays niçois, donc dans les montagnes. Donc on est dans une espèce d'effet d'isolement redoublé, puisqu'il y a déjà ce lieu clos qui est le monastère, isolé en plus dans ce coin perdu de montagne qui est entre la France et l'Italie, où il y a une différenciation linguistique très forte. Et à ce moment-là, je sais que quand on a découvert ce lieu, toute cette idée du film qu'on avait s'est précipitée en fait à trouver son lieu. C'est-à-dire que ce désir qu'on avait de traiter de la Révolution, moi j'aimais bien l'idée qu'on ait un personnage qui soit peut-être un moine, mais on savait pas encore où on allait le placer. L'idée, enfin, quand ce lieu arrive dans notre processus d'écriture, on a la sensation que tous les éléments se précipitent et qu'on a trouvé le bon endroit parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que d'être à la marge des événements et finalement de recevoir tout le tremblement de terre, mais enfin d'ailleurs on en a que les échos un peu lointains et avec un retard à contretemps. Moi j'aimais bien cette idée d'un personnage qui est toujours un peu en retard sur l'histoire, en tout cas c'est la sensation qu'il peut donner, parce que du coup ça déplace tous les attendus peut-être que le spectateur va avoir en termes de spectaculaire ou de grands mouvements. On sait de toute façon qu'on aura qu'une révolution, un peu affaiblie, mais ça nous oblige en fait à resserrer l'échelle du film à celle du personnage, donc de Gabriel, et finalement, en procédant comme ça presque par entonnoir, on en est arrivé à s'intéresser quasiment qu'à lui, et à faire de ce personnage de Gabriel le réceptacle et le moteur et le porteur de ce mouvement révolutionnaire. Et en fait, tout se passe à son échelle, parce que finalement, pour parler de révolution et de révolution française, peut-être qu'il fallait assumer de ne suivre qu'un personnage, de voir comment ça allait le travailler, et comment ça allait le travailler dans la durée. Et ça nous a permis, je crois, d'éviter de tomber dans certains travers un peu romantiques où, enfin, non pas que j'aime pas la littérature romantique, où j'ai lu Stendhal et j'adore Julien Sorel, qui ou Fabrice Del Dongo, qui s'emballe comme ça dès qu'il voit passer les troupes napoléoniennes, mais il nous semblait que ça ne pouvait pas se passer vraiment comme ça, et qu'il fallait qu'il y ait des hésitations. Et
ne pas montrer les idéaux de la Révolution comme quelque chose de romantique, un grand élan vital.
Ouais, non. Et puis essayer d'éviter un tout petit peu les discours aussi, parce que c'est une époque de production de discours qui est assez, assez incroyable, et des discours magnifiques, mais c'est effarant tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit. Et, mais d'une certaine manière, tout ça est tellement, une fois de plus, tellement fétichisé qu'il nous semblait qu'il fallait essayer de s'en débarrasser pour dépoussiérer tout ça et assumer, en fait, de faire presque un faux film historique ou un contre-film historique. Et ne garder de la Révolution que certains signes, en subvertir d'autres et resserrer à une échelle, très modeste, mais qui était celle du film, et qui nous permet malgré tout, enfin j'espère, de travailler cette question de la Révolution dans toute son ampleur par ailleurs. C'était vraiment ça le pari.
Dans ce resserrement de la Révolution, parce que oui, il s'agit vraiment d'un resserrement, on assiste à la confrontation, dans ce qu'on entendu dans l'extrait, entre un moine, enfin une communauté de moines, et quelques soldats, qui sont une dizaine à peu près. Est-ce que ça faisait partie aussi de ce que vous vouliez travailler cinématographiquement, cette confrontation du moine et du soldat ?
De manière générale, tout le film reposait sur la situation de base, c'est un conflit entre deux camps. Mais ça va, c'est les moines contre les soldats, mais c'est aussi du coup le temporel contre le temps du sacré, la spiritualité contre le charnel. Enfin, on pose comme ça un certain nombre d'oppositions assez binaires, parce que je pense qu'en fait on en est nourri et qu'on fonctionne un peu comme ça. En tout cas, dans l'idée qu'on va parler de la Révolution, il nous faut les deux camps. Et mais tout de suite, ce qu'on va chercher, et c'est ce que vous disiez en introduction, on va chercher comment notre personnage va circuler d'emblée, jamais être totalement assignable à un camp ou à l'autre. Donc oui, c'est un moine, mais il est comme ça, accroché de manière assez sensuelle, presque érotique à son arbre. Donc il est dans une espèce de nonchalance, a priori, par rapport à l'idéal monastique, et peut-être dans un rapport plus sensuel que spirituel ou dogmatique à la fois. Et on a cherché ça en permanence. Donc, en partant de ces situations très binaires, on s'est dit comment créer de la perméabilité, parce qu'en fait, c'est ça la complexité de la Révolution, c'est que les choses ne sont jamais ou toutes blanches ou toutes noires, et tant du côté des moines que du côté des soldats. Donc, on a cherché en permanence comment ces deux mondes, dont on a la sensation au début qu'ils s'opposent très frontalement, en fait, sont plus organiquement liés de ça, et vont se mélanger, s'interpénétrer, et assez naturellement, en fait. À travers, notamment, le personnage de Gabriel, mais aussi à travers le personnage de certains soldats, voire même de l'abbé. Enfin, on a cherché ça.
Votre film met en lumière un certain nombre de points communs, puisque finalement, les soldats ont des uniformes comme les moines, ils sont un corps constitué, ils ont un esprit de corps, ils vivent dans la caserne monastère, c'est vraiment un espace très très ambigu. Est-ce que c'est aussi des points communs qui sont apparus avec ce film?
Alors c'est intéressant parce que c'est des points communs qu'on avait cherchés à l'écriture, mais on s'en rend vraiment compte dès lors qu'on a précisément tous ces corps-là en présence. Et effectivement, d'un seul coup, l'habit monastique est un uniforme, comme l'uniforme des soldats en est un. Et à ce moment-là, cette appellation que j'aime pas beaucoup de film en costume prend pas mal de sens, parce que en fait, on se rend bien compte que ce qui se joue dans la Révolution, c'est tout sauf du costume. En tout cas, le costume ne définit pas l'homme qui est en dessous. Et c'est exactement ce qui se passe avec Gabriel, qui, à un moment, dans une scène, change puis rechange d'habit en fonction de son changement de camp, disons, pour la faire courte. Mais on se rend bien compte qu'en fait, ça ne le transforme pas aussi rapidement, en tout cas que les transformations mentales ou spirituelles ne suivent pas aussi vite. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a les points communs surgissent presque visuellement. Et on l'avait évidemment imaginé au scénario, mais je dois reconnaître que ça s'est vraiment matérialisé dès lors que tout ça a été présent dans ce lieu clos qu'est le monastère, avec tous ces hommes en habits divers, quoi.
On a beaucoup parlé des peintures de Jean-Baptiste Marot, qu'il avait fait de tous les extérieurs. C'est pour ça que quand j'arrive en calèche, j'étais sur un fond vert. Et puis c'était des peintures, j'ai vu, c'était des petits tableaux incrustés, qui étaient grands, comme des tableaux de maison, quoi, pas des grands formats. Et en revanche, je trouve pas assez parlé du rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Ce qui était quand même, je trouve, très, très beau et très important. Parce que bon, quand on était dans un salon, par exemple, quand elle était j'étais dans sa chambre ou j'étais, on se retrouvait dans des pièces. On utilisait des objets, des tasses de thé, on avait une table, on avait des chaises, on avait un très beau décor. Néanmoins, tous les décors autour, les quatre murs, étaient en aplat. C'était comme une espèce de trompe-l'œil, mais en grandeur nature, là. Ce qui donnait vraiment le passage entre l'extérieur et l'intérieur. Donc il y avait une espèce de perspective comme ça, qui était assez intéressante, qui était très théâtrale, en fait.
Là, qui recommence comme le mois passé, qu'ils ont injurié le roi et lui ont mis le bonnet rouge.
Clément Schneider, on entend la voix du comédien Jean-Claude Dreyfus, une archive de France Culture, La Fabrique de l'Histoire, en 2010, où il parle de son rôle, enfin du rôle qu'il a joué dans le film d'Éric Rohmer, L'Anglaise et le Duc, qui est sorti en 2001, et sur la place justement du film en costume et du fait de jouer à l'intérieur et à l'extérieur. La particularité du film de Rohmer était que tout l'extérieur était tourné sur fond vert. Vous, la particularité de votre film, c'est que l'extérieur du monastère, c'est du paysage. Principalement, il n'y a que ça. Est-ce que, avec le fait d'avoir trouvé ce lieu pour tourner ce film-là, vous conduisez immédiatement vers l'idée de faire un film de paysage? Paysage, en tout cas, allait avoir un rôle prépondérant?
Oui, parce que c'est autant ce lieu qu'on a découvert, ce monastère, que tout l'environnement, l'environnement au sens du monde que ça fabrique autour, qui a permis à l'histoire de se cristalliser. Donc je pense évidemment à ces montagnes, mais aussi aux oliviers, aux oliveraies, comme ça, qui couvrent les flancs des montagnes, et ça donne quelque chose de très particulier, enfin qui est sans équivalent. Mais c'est intéressant parce que dans mon film, ce que j'ai essayé de faire, ça a été précisément de ne pas trop opposer l'intérieur et l'extérieur, en ce sens que c'était très important pour moi d'être en permanence dans ce qui fait le monde de Gabriel. Et dans ce qui fait le monde de Gabriel, je dirais que les arcades ou les pierres ou la chaux du monastère a autant d'importance presque matériellement que les oliveraies, que les feuilles des arbres, que le soleil, les hautes herbes, etc. Donc il fallait essayer de créer pour moi une continuité. Alors c'est presque l'inverse de ce que Rohmer a essayé de faire. L'enjeu était de créer une continuité pour qu'on ne sente pas de rupture comme ça, entre, en tout cas du point de vue de Gabriel, entre le lieu du sacré, disons, et le lieu du profane, qui serait schématiquement l'intérieur et l'extérieur. Puisque de toute façon, les uns et les autres sont en permanence transgressés, puis les soldats arrivent, etc. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a filmé dans ce format assez carré, en 1:33, parce que pour moi, ça ramène une verticalité qui crée cette continuité entre des arbres, une montagne et des murs, des arcades. Enfin, j'ai l'impression que ça architecture beaucoup, y compris les paysages. Et je voulais absolument pas qu'on tombe dans la tentation d'un paysage un peu alambi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était très important pour moi qu'il y ait une espèce de tonicité du paysage, je sais pas comment le dire autrement, mais que, voilà, le paysage soit porté par cette espèce d'énergie vitale, comme le monastère, et qui se dévitalise au fur et à mesure que Gabriel et Marianne se retrouvent un peu seuls dans cette espèce de radeau à la dérive que devient le monastère vidé de tous ses occupants. Mais donc oui, en dehors de ça, la question plus généralement du décor naturel, en fait. Je serais incapable, moi, pour le coup, de tourner en studio. J'ai vraiment besoin de travailler avec les singularités, les potentialités, les difficultés, les contraintes du décor naturel, des espaces réels, donc dans les intérieurs, effectivement. La cellule, je pense, fait réellement 8 mètres carrés. Donc dès que vous avez mis 2 comédiens ou 3, une caméra et 3 projecteurs, on circule plus, mais ça crée des choses passionnantes, en fait.
Puis l'idée que la nature, ça n'a pas d'âge.
Oui, c'est vrai.
Du coup, on peut tourner des films historiques plus facilement en décor naturel que dans une ville ou...
Alors ça, c'est partiellement vrai, parce qu'en fait, on se rend compte que sans doute l'homme travaille beaucoup plus le paysage, même quand on se retrouve en pleine nature, en fait, le paysage est très très aménagé et c'est très très précisément datable. Il se trouve que c'est vrai que dans ces montagnes-là, on retrouve des endroits qui sont très vierges de l'intervention humaine, ou en tout cas dans lesquels, typiquement, la manière dont on organise les oliveraies n'a pas tellement changé depuis plusieurs siècles. Donc c'est vrai que ça permet de tourner plus facilement. Et puis quelque chose, du coup, de très inspirant et de très naturel, invite comme ça les personnages. On a l'impression que l'histoire, le récit, est juste là, et qu'on a vraiment qu'à qu'à le faire surgir de terre, mais qu'il était, il n'était pas très loin, quoi. Il n'y a pas tout à inventer, une fois de plus, comme si on était dans un studio où il faudrait tout fabriquer ex nihilo. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. J'ai besoin que les, oui, voilà, que, d'avoir la sensation que dans le lieu où je me trouve, l'histoire était en fait déjà là. Et que c'est du coup très naturel de, d'y amener les personnages et tout ça se fait avec une espèce d'évidence. Sans parler du coup de naturalisme. J'aime bien que tu parles de théâtralité d'ailleurs, le Jean-Claude Dreyfus, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là en fait, où on structure l'espace comme une scène de théâtre, et tout ça est construit. À aucun moment on a la sensation qu'on a glissé une caméra documentaire dans une situation qui existait. Et je crois que c'est très important ça, d'assumer la part de construction.
Justement, dans la construction, comment vous avez dirigé les acteurs avec cette distance historique-là?
Alors d'abord, dès le scénario, en ne cherchant surtout pas à, je dirais, à singer une, je ne sais pas, une langue du 18e ou quelque chose de cette nature-là. En fait, je crois que c'est un peu comme cette histoire de costume, finalement. Le rôle que vous confiez à un comédien, c'est comme un costume. Donc quand il va le passer sur ses épaules, il va pas avoir la même forme que si c'était moi qui l'endossais. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, par rapport à l'image que je me suis fait de ce à quoi ça allait ressembler, ça va d'un seul coup se décaler légèrement et essayer d'accueillir cette singularité qui est propre à l'acteur, avec ses imprévus, avec ses accidents, simplement se donner un territoire commun de travail qui est, dans le cas de ce film-là, le scénario, qui est très écrit, qui est très précis. Vis-à-vis duquel j'ai une certaine exigence, et à partir de là, c'est tout un ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la direction d'acteur qu'on viendra ensuite capter avec, en décidant des plans, en fait, tout se construit ensemble, parce que la parole a deux sens par rapport à un espace, par rapport à une distance dans un cadre plus général, et qu'elle n'aura pas du tout la même portée si on est dans un plan très très large ou si on est dans un plan plus resserré. Et est-ce qu'on décide de mettre plusieurs personnages dans le même cadre, au contraire, est-ce qu'on va découper, enfin, toutes ces questions-là se règlent en même temps. Mais ensuite, c'est surtout vis-à-vis de Quentin, parce que c'est lui qui est presque de tous les plans.
Le personnage
principal, Quentin Dolmer.
Le moine.
La vraie difficulté pour lui et pour moi, c'était de... Comme on filme un personnage qui est en permanence en train d'hésiter et de vaciller et de freiner un peu la prise de décision, ce qui n'est pas quelque chose de forcément très cinématographique, en fait. Il fallait pas tomber dans... Je crois que sa crainte, et qui était la mienne aussi, c'était de ne pas tomber dans une absence de jeu, non plus dans une espèce de froideur distante, qui aurait finalement fait de ce personnage quelque chose de très théorique. Donc il fallait à chaque fois, sans psychologiser les choses, essayer de ressentir en quelques mots, de mettre des choses très simples sur chaque scène et de se dire, bon bah, je me souviens que la question que Quentin me posait en permanence, c'était, mais il en est où là, Gabriel? Et j'aimais bien cette idée de il en est où, d'une trajectoire comme ça, parce que au fur et à mesure qu'on tournait, et en plus on tournait évidemment dans le désordre, on pouvait se dire, bon bah, peut-être que là il est plus, il a fait un pas vers les soldats, puis en fait là il a fait deux pas en arrière, et ça fonctionnait assez bien. Et l'autre personnage avec qui la direction d'acteur a été un peu particulière, c'est le personnage de Marianne, puisqu'elle est quasiment muette jusqu'à la fin du film.
On peut raconter, oui. Donc,
on peut raconter.
Marianne, c'est un personnage qui arrive avec l'armée des révolutionnaires, qui est une femme noire, et qui est, on ne sait pas pourquoi elle est avec ces gens-là, et elle est muette pendant la quasi-totalité du film.
Absolument. Et là, évidemment, la tentation aurait été de se raconter avec la comédienne toute l'histoire passée de Marianne. Voilà. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. On s'est dit qu'on allait assumer la part de mystère de ce personnage, qu'on n'en saurait pas plus que lui. Moi, j'avais très peur que la comédienne, peut-être, soit dans une frustration de se dire, mais que dois-je jouer et que dois-je être et qu'est-ce que j'exprime. Mais finalement, ça a toujours été... Là, on a été sur des choses très, 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 très simples, de l'ordre des regards et de l'intensité des regards, et dans quelque chose de beaucoup plus rythmique, de fait, qui regarde et pas tant pourquoi elle regardait, mais comment elle regarde ce qui se passe autour d'elle. Et moi, j'ai accepté qu'il y a sans doute une énorme part de ce personnage qui m'échappe complètement et qui appartient à la comédienne, donc Grace Terry, sur quoi j'ai absolument pas essayé d'en savoir trop. Et en préservant cet espace qui était le sien, Je pense que finalement, ça a nourri le personnage d'énormément de choses et qui a permis ensuite l'élaboration de cette prise de parole finale qu'on a en fait faite à deux. C'est-à-dire que c'est un monologue pour lequel il me semblait essentiel qu'il soit autant la prise de parole du personnage que de la comédienne qu'il avait incarnée jusque-là, puisqu'on a tourné ça quasiment à la toute fin du film. Et donc, sans lui dire « bon, bah maintenant, débrouille-toi et écris la fin du film toute seule, si tu aurais été un peu lâche », je lui ai envoyé une série de questions auquel elle a envoyé une série de réponses, et c'est à partir de ce matériau-là qu'on a élaboré le texte de fin. Et les réponses, elles lui appartiennent. Je veux dire, je suis pas du tout allé lui demander « mais pourquoi tu as écrit ça? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je me suis fait mon idée de ce que ça voulait dire. Et je crois que c'est intéressant parce que Marianne, elle est vraiment nourrie de... très très nourrie de l'imaginaire de la comédienne. Et j'aime bien cette idée-là.
Pour vous, c'est une entreprise collective, le cinéma?
Oui. Oui, oui, complètement.
Enfin, au sens, enfin, bien sûr, c'est une entreprise collective parce qu'il y a énormément de gens qui y travaillent, mais au sens vraiment de l'écriture d'un film et une élaboration collective.
Oui, oui, parce que je suis très admiratif des cinéastes qui savent travailler intégralement seuls. Mais je crois que ce qui me plaît dans le fait de fabriquer des films, c'est qu'on les fabrique à plusieurs et que c'est, bien sûr, c'est plutôt au début mon imaginaire et puis celui de la co-scénariste dans ce cas-là et celui de la productrice qui accompagne le film depuis le début, qui mettent en branle quelque chose, qui vont aller rassembler une... J'aime bien l'idée de la troupe, en fait, un peu comme au théâtre. Je crois vraiment qu'on fabrique comme ça. Parce que d'un seul coup, si on laisse à chacun un espace de travail suffisant, qui est un vrai espace de liberté, pas factice, surgissent des choses absolument imprévues, alors qui sont parfois accidentelles, parfois qui sont plus préméditées de leur part. Et tout ça tire le film vers le haut. Et surtout, à un moment, c'est tellement épuisant que si on n'est pas porté par une équipe qui croit à peu près autant de vous, c'est tout simplement pas... Enfin, c'est dur à tenir, quoi. Et je dois dire que sur le tournage du film, qui a été quand même assez épique, parce que très peu de moyens, parce que peu de temps de tournage, le prix à payer des décors naturels, c'est qu'il est souvent inaccessible et qu'on est en plein mois de juin dans la vallée de la Roya où il n'y a pas d'eau. Disons que si vous travaillez avec des gens qui savent pourquoi on affronte ces difficultés, je pense qu'on obtient des choses assez intenses qu'on n'obtiendrait pas autrement. Et surtout, moi je crois absolument à l'intelligence de l'équipe. Et par exemple, sur ce fameux monologue de fin, donc qu'on a terminé la veille du tournage de la scène, j'étais évidemment un peu fébrile puisque j'ai plutôt l'habitude d'avoir des scénarios qui sont très mûris en amont du tournage. Et là, c'était un peu un saut dans le vide. Et on lance une répétition donc de ce très long travelling. Et assez vite, j'écoute bien sûr la comédienne, mais en fait, je regarde l'équipe autour pour voir quelle est la qualité d'écoute. Parce que je savais que l'engagement de l'équipe dans le film était tel que je saurais ce qu'ils en pensaient en les regardant. Et quand j'ai vu qu'il y avait une qualité d'écoute incroyable et une concentration, une émotion, je me suis dit que, bon, a priori, on ne s'était pas trop...
Ça tenait
la route. En tout cas, a priori, au moins sur une première répétition. Mais non, je pense que le cinéma, c'est vraiment une affaire collective. Enfin... Je travaille dans une société de production, on est trois. Je me verrais pas travailler tout seul et j'aime bien être entouré.
Au-delà de la dimension historique, c'est votre film Un violent désir de bonheur est assez intéressant par les anachronismes qu'il déploie, et notamment les anachronismes dans le thème musical, puisqu'on entend Patti Smith, Marianne Faithfull et d'autres musiques contemporaines sur ce film qui se passe donc au XVIIIe siècle. Quel rôle il a pour vous l'anachronisme ?
Il a pour rôle de tout de suite passer une sorte de contrat avec le spectateur, puisque en fait on entend The Last Poets dès l'ouverture du film, pour éviter tout de suite la tentation de se dire voilà, je suis dans un film historique, donc j'assiste à une reconstitution, donc il y a une vérité historique que le cinéaste est allé exhumer comme ça et qui va me ressortir. Non, moi je crois pas du tout à cette idée-là. En tout cas, ce qui est intéressant dans le film historique, c'est précisément la part de fiction qu'on peut s'autoriser dedans. Il y a une très belle phrase de la cinéaste Lucrezia Martel qui disait qu'il n'y a pas de différence entre un film historique et un film de science-fiction. Et je suis absolument d'accord avec cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit à chaque fois de construire un monde à partir d'éléments qui ne sont pas forcément les mêmes, d'une matière première qui n'est pas la même, mais qui reste un monde de fiction. Sinon, c'est le travail des historiens que d'essayer d'établir une vérité qui, de toute façon, par définition, est toujours mouvante. Donc voilà, je voulais surtout pas que le spectateur se dise qu'on allait édumer un passé vitrifié dans une forme canonique. Je pense que c'est même très dangereux. Et qu'à la limite, le travail du cinéaste, c'est de s'emparer de ces récits-là, a fortiori quand ils ont une portée idéologique et politique aussi déterminante que la Révolution. Et qu'il faudrait presque refaire ces récits-là tous les 20 ans, tous les 30 ans. Voilà. Donc, et pour faire, comment dirais-je, pour que ce soit très clair d'emblée, l'anachronisme musical que vous pointez, il était d'une efficacité redoutable, en plus d'emmener le film, de le faire dériver vers d'autres territoires de lutte, d'autres continents, d'autres époques, et comme ça, de créer un arc qui va de l'époque à laquelle se passe le film vers la nôtre. Et ça, j'y tenais beaucoup.
Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi, c'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité entre les mains de l'autre, sous les doigts de l'autre qui vous parcourt. Toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister. Contre les lèvres de l'autre, les vôtres deviennent sensibles. Devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard, enfin, pour voir vos paupières fermées. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, il apaise l'utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l'enferme comme dans une boîte, il la clôt. Et il la scelle. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici.
Clément Schneider, on entend une archive de Michel Foucault, Le corps utopique, qui date de 1966 pour France Culture, où Michel Foucault dit entre autres que le corps est le contraire d'une utopie, enfin surtout les rapports entre que le corps peut entretenir avec l'utopie. Est-ce que le monastère de votre film, vous l'avez aussi pensé comme un espace de type utopique ?
Alors ce qui est très beau dans le texte de Foucault, c'est que... Il dit d'abord que le corps est le contraire d'une utopie pour finir par renverser sa propre proposition et c'est...
Pour dire qu'il est utopique,
en fait, le corps est complètement utopique. Et évidemment que le fait que le monastère est un lieu clos, autosuffisant, une micro-société, a quelque chose d'une utopie, mais disons que, à un moment, on a la sensation, je crois, que le film pourrait prendre un virage qui serait de l'ordre de la Robinsonade, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a ce jeune couple, Marianne et Gabriel, isolés dans ce monastère, dans une nature assez exubérante et plutôt accueillante. Donc voilà, une espèce d'Éden.
Une tentation, oui, ouais, une tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, complètement, où tout va bien.
Complètement. Et ce que je voulais impérativement, c'est que cette tentation-là soit très vite travaillée par des éléments qui la font dysfonctionner. Parce qu'en fait, l'idée que je me fais de l'utopie, c'est précisément pas celle-ci, c'est-à-dire d'une non-société, puisque bon, un couple ne fait pas société, en tout cas pas dans l'idée que je m'en fais, isolé de tout le reste et sans prise avec le monde réel, avec la réalité. C'est-à-dire que l'utopie, en dépit des apparences, elle n'est pas coupée du réel, hein, elle le prolonge à travers un travail de fiction, mais elle n'en est pas fondamentalement coupée. Elle est là, enfin, les grands utopistes ont toujours imaginé des utopies pour critiquer et agir sur le réel, pas pour le fuir. Donc voilà, tout en assumant qu'il y a cette tentation de la Robinsonade, je voulais que le film, presque, mais entre guillemets violemment, mais en tout cas par rapport à Gabriel, il y a une forme de violence, l'arrache à ce lieu qui perd son sens puisqu'il est vide de sa société qui lui donnait sa vibration et son sens, et qu'il finisse enfin par s'en aller, parce que c'est là seulement qu'il va se passer quelque chose d'utopique. En fait, l'utopie pour moi reste de l'ordre du mouvement et pas de l'ordre de quelque chose qui serait figé dans l'éternité. Donc je crois que le film travaille des figures utopiques et puis le concept est très, très vaste et assez complexe, c'est foisonnant, mais il en travaille plusieurs signes. Mais je pense que le monastère, en tout cas dès lors qu'il se vide, a perdu toute possibilité utopique qu'il aurait davantage au début, en tout cas dans un début qui précède même le film, qui serait celui d'avant l'arrivée des soldats.
Il y a un ami de Gabriel, on ne sait pas trop si c'est un ami, mais qui revient le voir au moment où justement il est dans le jardin d'Éden avec le personnage de Marianne, et il lui dit « le monde et toi, c'est la même chose », ou quelque chose de cet ordre.
Oui, c'est ça.
Cette idée-là.
C'est quelque chose de cette idée-là, en tout cas, que ce ne sont pas deux entités séparées, et que, en tout cas, vouloir se couper du monde, pour moi, est une forme de renoncement, qui est aussi la limite de l'utopie monastique, d'ailleurs. Mais ce qu'on comprend aussi des moines, c'est qu'ils sont, on comprend, je crois, dans le film, qu'ils sont en lien avec les paysans autour d'eux. Enfin, ils sont pas tout à fait coupés du monde. Et quand il vient lui rappeler que le monde et lui, c'est pareil, c'est très, apprendre très au pied de la lettre cette chose-là pour moi. C'est-à-dire que effectivement, Gabriel fait partie du monde, et donc vouloir s'en extraire comme il le fait depuis un petit moment est une erreur et n'a pas de sens existentiellement. Donc à un moment, il faut aussi il y a vraiment quelque chose de l'ordre, il faut chasser, il faut le faire partir, et c'est tout ce à quoi contribue son éveil avec Marianne et d'autres figures qui l'entourent, comme ce personnage de colporteur dont, comme vous dites assez bien, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que c'est un ennemi. En tout cas, il est peut-être ambigu, puisqu'il n'est pas dans un rapport de... À chaque fois, il vient lui annoncer quand même des nouvelles pas forcément très réjouissantes. Mais oui, il faut... Je crois qu'à un moment, la violence qui en partie donne son titre au film, c'est celle de l'arrachement qu'il faut consentir, de l'arrachement à soi-même qu'il faut consentir pour amorcer un vrai mouvement qui soit révolutionnaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi.
La dimension utopique chez Michel Foucault, elle s'incarne, enfin du corps en tout cas, elle s'incarne aussi beaucoup dans la sexualité. La sexualité est très présente dans votre film. Est-ce que ces personnages-là, c'est avant tout des personnages et aussi des acteurs que vous avez pensé notamment par rapport à leur corps, dans leur rapport au corps?
Complètement. Il y a plein de... la première chose par exemple, c'est que... la question de la représentation du corps noir au cinéma, en France en tout cas, est toujours problématique. Donc ça me semblait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Marianne est un personnage noir, c'est qu'on avait la sensation qu'il fallait travailler cette figure de l'apparente altérité qui en fait fait partie de notre monde, de notre société, avec la scénariste. Et par rapport à Quentin Dolmer, c'est sûr que c'est avant tout un corps et une voix, et il a, pour moi, il a quelque chose de l'ordre de... Il est métamorphique, mais comme l'est, je sais pas, un arbre, quoi. C'est-à-dire que selon l'endroit depuis lequel vous avez regardé, en bas, en haut, selon la lumière qui tombe sur lui, il va passer de petit garçon à adolescent, voire même à un homme mûr très très viril. Enfin, il est comme ça, polymorphe, et son corps aussi. C'est-à-dire de face, il a quelque chose parfois d'un peu fluet, et puis de dos beaucoup moins. Enfin, il est fascinant à observer pour ça. Et évidemment, j'avais très envie de travailler avec les corps des comédiens, et en tout cas de pas faire l'économie de scènes d'amour, de scènes de sexe, disons, parce que ça aurait été un tout petit peu artificiel de les évacuer. Et que ça fait partie de la dimension, disons, de roman initiatique que porte le film aussi. Mais c'est vrai que finalement, Foucault parle du miroir, mais il oublie la caméra, en fait, qui permet de clore le corps sur lui-même et d'apaiser, c'est très beau, cette idée d'apaiser l'utopie par l'amour. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on y revient, d'ailleurs.
Il y a quelque chose de très étrange, c'est que, oui, donc ce moine se retrouve à faire l'amour, mais... Enfin, je dirais un truc peut-être un peu idiot, mais il y a quelque chose qui a l'air naturel. Enfin, en tout cas, dans le prolongement, comme il a été présenté comme un corps sensuel dès le départ du film, on n'a pas du tout l'idée de transgression, par exemple. Qu'il transgresse une forme, enfin, l'interdit, en tout cas, qui est l'interdit de toute personne ecclésiastique de ne pas faire l'amour.
Oui, c'est assez juste. Puis c'est vrai qu'il n'y a aucun moment où le film est assez peu dans le discours ou dans le dogme, mais ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, ni du côté des révolutionnaires, ni du côté des religieux. Donc je pense que la sensation qu'il est en train de transgresser un tabou fondamental, elle est atténuée, mais parce qu'en fait elle me paraît pas, pour le coup, elle me paraît pas extrêmement importante. J'ai l'impression que on le comprend en tant que spectateur, on sait bien que quelque part il s'octroie une liberté qu'il ne devrait pas prendre, mais j'ai l'impression que ce qui compte là-dedans, c'est plutôt que le personnage est désirant et qu'au fond on a autant envie de lui que ça arrive, parce que effectivement tout nous a préparé à ce que ça s'accomplisse dans un acte d'amour entre Marianne et lui. Et j'ai quand même la sensation que, à ce moment-là du film, ça ouvre quelque chose d'autre, un autre rapport au temps, un autre rapport au corps, un autre rapport peut-être à la parole, parce que d'un seul coup, il n'y a plus de parole, en fait. C'est un moment du film où on se tait. En tout cas, les deux personnages ne parlent quasiment pas. Et je pense que ce qu'il y a de, après, je reste convaincu que j'ai toujours la sensation qu'il y a quelque chose d'un peu transgressif quand on le voit avec sa tonsure embrasser cette jeune femme noire. Je trouve l'image assez drôle. Et puis quand elle s'enfuit là, en criant Amen, Amen, toute nue dans le livret. Mais, non, l'idée était surtout pas, en fait, je voulais pas qu'on tombe dans un effet un tout petit peu lourd du, comme l'est le nom de la rose, par exemple, où on a, quand le jeune moine enfin couche avec cette jeune femme, on a la sensation qu'il franchit un cap qu'il devait franchir pour que le film, cette partie-là de l'intrigue soit résolue. Et je voulais surtout pas qu'on ait la sensation qu'il franchit un cap.
Et que ça résout
quelque chose. Et après, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un truc qui est scénaristiquement absurde, en tout cas qui dramaturgiquement serait condamnable, c'est que ils font l'amour puis ils refont l'amour tout de suite, et ça me semblait très important que il y ait une redondance comme ça, un redoublement de l'acte, pour que justement il soit déchargé de toute portée purement symbolique de le personnage franchit un cap, quelle sera la prochaine étape,
et qu'on soit un sommet, quoi.
Exactement, et qu'on n'ait pas une fois de plus pour casser cette sensation que l'initiation, l'évolution du personnage se fait suivant un escalier par étape. Non, une fois de plus, il va faire un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a quelque chose de l'ordre du vacillement, comme tremble la flamme d'une bougie si on la met à l'autre bout de la pièce et qu'on souffle dessus, quoi. Elle va trembler avec un peu de retard, puis elle va pas s'éteindre d'un coup, elle va trembler. Et je voulais filmer ça.
C'est comme la révolution. Enfin, on entend le processus révolutionnaire, on voit les armées avancer, les changements s'opérer, mais sans voir le point final non plus.
Effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans la révolution, c'est de ne pas ni filmer des choses qui seraient figées. C'est filmer comment les choses se mettent en branle, les idées, les corps, les êtres, plus que de chercher à tout prix à vouloir filmer l'endroit où ils arrivent. Parce que, en fait, une fois qu'on est arrivé quelque part, il faut de nouveau le dépasser. Et je pense que c'est ça aussi la dynamique utopique. C'est qu'il y a toujours un nouveau nulle part à inventer, qui nous emmène, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est un chercheur qui s'appelle Pierre Macheret, qui dit l'utopie programme la rupture. J'aime bien cette idée-là. C'est comment on va programmer la rupture.
Parce que, en fait, oui, à l'intérieur des costumes des soldats révolutionaires aussi, on se rend compte, je pense notamment à une scène où il y a la confession d'un des soldats, où un des soldats demande à Gabriel de le confesser, et on entend, oui, aussi le changement de statut, enfin en tout cas le processus sous le costume.
Oui, en tout cas, ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que parce que c'est pareil, c'est une scène qui fait dramaturgiquement rien avancer, mais elle est pour moi fondamentale, parce que ce qu'on découvre à ce moment-là, c'est que on a beau être le porte-étendard du monde nouveau, du monde déchristianisé, on n'en a pas moins à un moment peut-être besoin de cette transcendance, ou besoin de ce dispositif pourtant très contraignant ou très opprimant qu'est la confession, et qu'en tout cas il remplit un rôle social, et donc qu'on ne peut pas se débarrasser de tous les signes du monde d'avant, que les choses sont jamais on peut pas tout détruire et tout reconstruire. C'est une fois de plus un processus qui est plus complet. Peut-être qu'on détruit une partie, mais qu'on a besoin de conserver quelque chose, qu'on va faire évoluer, transformer. Et effectivement, je crois que ça nuance l'idée qu'on pourrait se faire des soldats qui ne sont pas que le reflet des uniformes qu'ils portent.
Qu'est-ce qu'il y a de... Vous parlez de narration et de la question de la dramaturgie. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, l'arc qu'on trace dans un film ?
Absolument. Oui, je suis pas un ennemi de la dramaturgie classique. Je me méfie un tout petit peu, surtout dans le cinéma, d'une tendance à vouloir à tout prix organiser les scénarios des films suivant des schémas narratifs qui sont qui obéissent à des canons, avec un acte 1, un acte 2, un acte 3, un pic de tension à tel endroit du film. Et puis parfois il y a du temps mort, ou il y a de l'improductif narratif, mais cet improductif narratif, entre guillemets, il est essentiel pour nous permettre de ressentir la complexité du monde qu'on décrit, la complexité des personnages qu'on met en scène. Et je pense que de faire confiance comme ça aux éléments, à cette espèce de chimie qu'on fabrique, où voilà, il y a le monde, les personnages, les idées, permet de, par exemple, éviter l'écueil de la psychologisation des personnages, qui, je trouve, est assez délétère et en tout cas fait souvent entrer les films dans, ou les scénarios dans des dramaturgies très mécanistes, où on organise la suite des événements suivant une logique de cause à effet. Et ça aurait été presque très tentant de faire ça avec Gabriel, telle décision entraîne tel changement qui va entraîner telle nouvelle décision. Mais je crois que ça aurait été très pauvre, finalement, sur ce que c'est que la lourde décision que de s'engager. Puisque c'est aussi de ça que le film parle, c'est un processus lent, et une fois de plus, à moins d'être dans une dramaturgie plus romantique, la décision ne se prend pas en deux lignes de scénario ou en deux minutes de film. Il faut du temps.
Ding dong. Ding dong. Ding dong.
France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bête de Lièvre avec Clément Schneider.
His father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. Him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. As if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, drift, drift. The sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white oval, seeing everything just a little bit too clearly. And looked around.
Je suis. Nous sommes. Il n'en faut pas davantage. À nous de commencer. C'est entre nos mains qu'est la vie. Il y a beau temps déjà qu'elle s'est vidée de tout contenu. Absurde. Elle titube de ci, de là. Mais nous tenons bon. Et ainsi nous voulons devenir son point et ses buts.
Clément Schneider, on entend la musique de Patti Smith, Birdland, qui est dans votre film, et à la fin la voix du personnage de Clément, qui cite Ernst Bloch. Il y a beaucoup de citations dans votre film. Quel jeu elle joue, les citations?
Alors la citation, c'est le colporteur, vous avez dit le personnage de Clément c'est moi.
Ah pardon, Gabriel.
Pas de mal. Quel jeu les citations jouent? Elles élargissent, pour moi, l'immédiate intrigue du film, c'est-à-dire qu'elle constitue à la fois une assise théorique dont le film a besoin. Enfin, puisque je disais tout à l'heure que C'est vraiment une époque de production de discours assez passionnante, la Révolution. Donc il me semblait que le film ne pouvait pas faire totalement l'économie de la théorie. Et c'est en fait, elle joue un peu le même rôle anachronique que les musiques, parce que les citations viennent de partout, en tout cas hormis celle de Sade qu'on entend en début de film en voix off. Il n'y a aucune citation qui soit liée à l'époque de la Révolution française, voire même liée au contexte de la Révolution française. Donc elle joue exactement ce même rôle de dissonance, enfin à la fois de résonance et de dissonance, donc d'élargir l'intrigue immédiate du film. Et d'être comme un horizon qui est celui du personnage, qui est presque d'une voix intérieure ou d'un songe. Tout l'art de la citation, entre guillemets, c'est de le doser, c'est-à-dire de pas non plus tomber dans une collection un peu jolie, comme une coquetterie, quoi. Je voulais surtout pas que ça donne cette sensation-là, donc...
Mais ça participe au flou, à l'indistinction des temps et à une forme d'anachronisme aussi.
Ah bah complètement, mais parce que ça nous emmène sur d'autres, une fois de plus, c'est comment la révolution est une idée qui est à la fois très située dans le temps, à chaque fois qu'il y a une révolution quelque part, dans le temps et dans l'espace, et en même temps procède d'un mouvement qui est peut-être le plus universel. Comment en fait, en parlant de ce personnage extrêmement contextualisé, qui est ce jeune moine dans l'arrière-pénissois pendant la Révolution française, on en vient, avec la durée du film, à réussir à toucher quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que c'est qu'avoir 20 ans. Et je me souviens très bien que on avait une question qui ouvrait comme ça nos notes d'intention quand on finançait le film, comme en exergue, qui était: que vais-je faire de ma jeunesse alors que le vent souffle sur le monde ancien? Et ça, c'est une phrase c'est une question qui est de tous les temps et de toutes les époques. Et je pense que d'avoir ramené comme ça Bloch, d'avoir lu Le Comité Invisible pendant qu'on fabriquait le film, alors il n'est pas cité directement, mais quelque part, c'est une lecture que j'avais en tête, d'avoir lu Pavès, d'avoir lu d'autres choses, d'avoir lu Sade, relu Sade. Voilà, c'est toute une constellation comme ça de pensées, et c'est quand même des citations qui ont pour moi une grande valeur esthétique, qui permettent précisément au film d'atteindre, j'espère, à cet universel ou à cet intemporel, ou à cet, je préfère, inactuel à intemporel d'ailleurs. Voilà. Et j'aime l'idée qu'on les... Pardon ?
Faire quelque chose d'inactuel.
Faire quelque chose d'inactuel. Et, en tout cas, que le film historique ait cette portée-là, se donne cette ambition-là. De pas être enchaîné dans l'époque qu'il représente. Sinon, il est pas très intéressant, pour moi. Et j'aime bien l'idée qu'on donne comme ça aussi aux spectateurs. C'est comme une invitation à partager d'autres sources, à visiter cette constellation d'auteurs que j'ai lus, et qui pour moi sont comme des phares, quoi.
Dans la rythmique et dans le montage de votre film, il y a des séquences assez particulières où, comme si le montage s'accélérait, je pense à un moment notamment où il y a une tempête dans le livret, et où la tempête est suggérée très clairement par des grêlons qu'on voit au sol, et des troncs filmés en plan rapproché et défoncé. Et je raccorde cette séquence-là avec d'autres, on voit des inscriptions sur le mur du monastère qui vont assez vite et par saccades. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui, pour vous, dans l'image, relève plutôt de la suggestion, en tout cas de suggérer avec les images?
Ah bah, complètement, c'est-à-dire que j'avais malheureusement pas les moyens d'abattre toute une oliveraie. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, les frères Taviani avaient eu le même problème quand ils ont adapté Padre Padron. Alors, j'ai pas revu le film pour éviter... Je sais plus comment ils résolvent le problème, mais il y a aussi une oliveraie qui se fait détruire pendant un orage. Et je sais qu'ils ont trouvé une astuce. En tout cas, ils la montrent pas. Donc, il y a une contrainte économique d'abord, mais... que j'oppose pas du tout. Enfin, pour moi, la production et la mise en scène vont ensemble. Donc, il n'y a pas du tout d'un côté ma vision pure d'artiste.
Et la production.
Se colle à la production qui vient la limiter. Tout ça va ensemble. Donc, je sais très bien qu'en écrivant cette scène, je vais devoir trouver une solution pour qu'elle soit palpable et que quelque chose de ce désastre soit tangible sans pouvoir la montrer. Donc, effectivement, on procède par métonymie. Donc, il y a ces grêlons. Il y a ce hasard qui fait que je retourne enregistrer des sons dans l'oliveraie à l'automne, et je prends la caméra, et à ce moment-là, il y a cet arbre qui est arraché, donc je peux filmer. Et effectivement, cette accélération dont vous parliez autour de cette séquence que j'appelle entre guillemets le désastre et de ces graffitis qui d'un seul coup viennent peupler comme ça la cellule de Gabriel, c'est vrai qu'à ce moment-là, le film s'accélère, mais on sort d'un moment, au contraire, le temps s'est dilaté, tombe dans une espèce de non-temps, justement, d'éternité possible, de cette tentation utopique dont on parlait tout à l'heure, de cette tentation de l'Éden. Et là, c'est comme si d'un seul coup, le réel rattrapait Gabriel tout d'un coup, assez brutalement, pour le ramener au monde. Enfin, pour moi, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il fallait que ce lieu pour lequel il était resté, presque le chasse. Et que le lieu devienne inhospitalier. Donc, c'est l'oliveraie qui est détruite. C'est cette cellule que les soldats ont commencé à graffiter en début de film, dans le premier tiers. Et qui, là, d'un seul coup, se couvre comme une sorte de contamination un peu magique, parce qu'on ne sait pas exactement qui est l'auteur de ces gribouillis sur le mur. Mais voilà, ça crée une inhospitalité qui va petit à petit forcer le personnage à se détacher du lieu et à se mettre en branle. Et c'était vraiment important pour moi que le lieu, qui est quand même peut-être le troisième personnage du film après Quentin Dolmer, enfin Gabriel et Marianne, ait sa vie propre et finisse par, à son tour, envoyer le personnage hors de lui, quoi.
Il y a un mot qui revient souvent dans le film, et on l'a entendu d'ailleurs dans le prêche au tout début de l'émission, dans le prêche de Gabriel, c'est ce mot du silence. En tout cas, il dit, puisse votre révolte ne pas perdre les choses précieuses. Et parmi les choses précieuses, il y a cette question du silence. Quelle place vous lui accordez, vous ?
J'accorde une grande place au silence, mais au silence au pluriel, dans le sens où il y a tout un travail autour du silence. C'est-à-dire qu'au début, on est dans ce monastère dont on se doute que dont le silence fait partie de la vie quotidienne, en tout cas. C'est le calme, c'est la spiritualité. Il est rompu par l'arrivée des soldats. Et toutes les scènes où les soldats sont là sont toujours bruyantes. Il y a toujours de l'activité sonore, que ce soit des chants, des discussions. On sent de sa vie, mais ça ne vit pas d'une vie spirituelle très intense, c'est plutôt d'une vie très matérielle. Et puis le lieu revient au silence dès lors que les soldats partent. Mais on a travaillé avec l'ingénieur du son, le monteur son, et le mixeur, à faire en sorte que ce silence-là, qui suit, soit un silence beaucoup plus vide et beaucoup plus progressivement angoissant, en tout cas qu'il soit pas exclusivement radieux et paisible et calme, mais qu'il ait quelque chose d'une morbidité qui va travailler le lieu et Gabriel et Marianne petit à petit, qui va un peu être comme le ver dans le fruit, et qui d'emblée fait que même ces scènes très solaires, très édéniques, vers l'oliveraie ou la rivière, sont quand même affectées de quelque chose de plus sombre. Et je tenais beaucoup à avoir en tout cas cette double sémantique du silence, à la fois quelque chose de potentiellement très apaisé, très très beau, très spirituel au début, et puis progressivement beaucoup plus noir, et ça se confirme plus on avance vers le film. Et je crois qu'à ce niveau-là, la prise de parole finale, elle est assez salutaire, quoi.
Merci, Clément Schneider. Votre film Un violent désir de bonheur sort aujourd'hui sur les écrans.
Duke has magical hands, and when he moves it melts. Them hands are magical indeed. Them hands are magical. Duke has magical hands. And when he moves it melts, them hands are magical indeed, them hands are magical. Duke has magical.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Amin El-Mansari. Lise Combe était à la réalisation. Merci à Anna Baron, Camille André et Lou Kevauvillier qui pensent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.
Thank you. hands are magical, magical indeed.